C'est l'heure du journal, présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Nicolas Sarkozy est renvoyé en correctionnel dans l'affaire des écoutes. Les juges le soupçonnent d'avoir proposé d'aider Gilbert Azibert, ancien avocat général à la Cour de cassation, à obtenir une promotion à Monaco en échange de renseignements sur l'avancée d'une autre procédure. 1,5 milliard d'euros pour développer l'intelligence artificielle en France. Emmanuel Macron annonce un plan sur 5 ans inspiré du rapport Villani. Et Microsoft décide d'investir 30 millions de dollars sur 3 ans dans le pays. Le géant du commerce électronique Amazon en zone de turbulence. Le président américain Donald Trump lui reproche de ne pas payer assez d'impôts. Et puis en Égypte, le président Sisi est réélu, mais avec une abstention bien plus forte qu'il ne l'espérait. Les ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy s'accumulent. Mis en examen la semaine dernière dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007, l'ancien président est maintenant renvoyé devant la justice dans l'affaire dite des écoutes. Les juges d'instruction ont ordonné son renvoi pour corruption active et trafic d'influence, Florence Thuram.
Oui, en réalité, ce n'est pas vraiment une surprise dans la mesure où le parquet national financier avait lui-même requis ce renvoi en octobre dernier, mais il appartenait au juge de signer l'ordonnance, dernier acte de cette instruction qui aura duré plus de 3 ans. L'affaire dite des écoutes trouve son origine dans le dossier libyen, ce supposé financement de la campagne présidentielle de 2012 par le régime de Kadhafi et pour lequel Nicolas Sarkozy a été mis en examen la semaine dernière. En 2013, dans le cadre de leurs investigations, les magistrats décident de placer sur écoute l'ancien président et certains de ses proches. Ces écoutes ouvrent une nouvelle vague de suspicions. Nicolas Sarkozy se retrouve soupçonné d'avoir tenté d'obtenir des informations secrètes sur l'avancée de l'affaire Bétan en cours par l'intermédiaire d'un haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, et ce, en échange de la promesse d'appuyer sa promotion pour un poste au Conseil d'État de Monaco. À ce moment-là, la plus haute juridiction doit se prononcer sur la légalité de la saisie des agendas présidentiels et c'est une échéance capitale. Gilbert Azibert, qui cela dit en passant, n'obtiendra pas le poste convoité, est lui aussi renvoyé en correctionnel au terme de cette instruction, de même que l'avocat Thierry Herzog, avec qui Nicolas Sarkozy échangeait, pensait-il en toute discrétion, sur une autre ligne téléphonique ouverte sous le nom de Paul Bismuth. Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog avaient d'ailleurs attaqué ces écoutes policières, mais la Cour de cassation les a validées en mars 2016. Aujourd'hui, l'ancien chef de l'État annonce qu'il entend contester ce renvoi en correctionnel devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris.
Florence Thuram, l'intelligence artificielle, un enjeu majeur, technologique et économique. Alors qu'aujourd'hui, les États-Unis et la Chine dominent le marché, la France veut se hisser parmi les champions de ce domaine. Hier soir, le mathématicien Cédric Villani a fait connaître ses propositions et cet après-midi, Emmanuel Macron a fixé le cap. Au cours du quinquennat, l'État va consacrer près d'1,5 milliard d'euros au développement de l'intelligence artificielle en France, Boris Loumagne.
Oui, avec un premier axe dans le discours présidentiel, nous avons des talents, gardons-les. Alors comment faire? Grâce notamment à la formation. L'objectif est de doubler le nombre d'étudiants formés à l'intelligence artificielle et puis des appels d'offres vont être lancées bientôt pour attirer les meilleurs projets étrangers. Mais l'autre axe majeur énoncé par Emmanuel Macron, c'est le lancement d'une politique d'ouverture des données, avec en préambule cet avertissement.
Nous devons tenir d'une seule main le progrès technique et le progrès humain, la transformation économique et la transformation sociale, et réussir à faire que cette utopie prométhéenne ne devienne pas une dystopie. Nous avons des bases de données centralisées massives, qui nous offre l'opportunité de nous positionner à la pointe de l'intelligence artificielle dans certains secteurs. Alors, pour permettre que soient exploitées au mieux les données, nous allons méthodiquement mais résolument procéder à une ouverture proactive de nos données. Cela passe d'abord et avant tout par l'ouverture des données publiques.
Alors ces données publiques, quelles sont-elles? Il y a les données des opérateurs de transport ou encore les données de la santé. Le président veut d'ailleurs une structure qui inclurait progressivement l'ensemble des données de l'assurance maladie, des données cliniques des hôpitaux, les données de la médecine des villes, notamment pour améliorer la médecine prédictive. Mais reste la question de l'anonymat. Sera-t-il préservé? Cette plateforme de données de santé est-elle souhaitable, réalisable? La réponse de Gilles Dowek, il est chercheur et enseignant en informatique, il fait partie d'un comité d'éthique sur les nouvelles technologies.
C'est quelque chose qui est souhaitable, c'est quelque chose qui n'est pas forcément réalisable. C'est-à-dire, si vous parler, par exemple, de la grippe, eh bien, il est relativement facile de faire des statistiques sur la grippe et de rendre ces statistiques suffisamment générales de manière à ce qu'on ne puisse pas réidentifier quelle personne a la grippe. Si vous parlez de maladies rares, de maladies qui concernent un tout petit nombre de patients, à ce moment-là, vous voyez qu'en publiant des statistiques sur les 20 personnes qui ont cette maladie, eh bien, il est beaucoup plus difficile de garantir leur anonymat.
Et pour répondre à ces questionnements, Emmanuel Macron a évoqué la création, je cite, d'un GIEC de l'intelligence artificielle pour travailler sur ces problèmes éthiques.
Et le groupe américain Microsoft annonce justement un investissement de 30 millions de dollars sur 3 ans en France pour développer un programme dédié à l'intelligence artificielle. Il prévoit la création de 3000 nouveaux emplois au sein de l'écosystème numérique français. Le géant du commerce électronique Amazon est, lui, en zone de turbulence. L'entreprise américaine vient de perdre des dizaines de milliards de dollars en bourse. Les rumeurs sur la volonté de Donald Trump d'encadrer la domination du géant de l'Internet avaient déjà fait fortement chuter le cours de l'action hier. Et ce matin, le président américain a ouvertement critiqué Amazon sur Twitter. Grégory Phillips, alors que lui reproche-t-il exactement ?
Eh bien, ce que Trump écrit, c'est qu'Amazon ne paye pas ou peu d'impôts, que ce soit au niveau local ou fédéral, et que le groupe de Jeff Bezos a provoqué la fermeture de milliers de petits commerces aux États-Unis. Alors, sur le premier point, le président américain n'a pas tout à fait raison. Évidemment, Amazon paye des impôts, un peu plus de 400 millions de dollars l'an passé, mais c'est vrai que le groupe pratique à grande échelle l'optimisation fiscale. Et puis, sur le second point, eh bien, c'est vrai que l'essor du groupe de Seattle est vraiment très impressionnant. Amazon a maintenant des activités dans tout ce qui concerne le quotidien des Américains, Internet, bien sûr, la télévision, les produits culturels et même la livraison à domicile de fruits et légumes bio depuis qu'Amazon a racheté la chaîne de supermarchés Whole Foods. Pour toutes ces raisons, la Maison Blanche pourrait donc être tentée de freiner ce développement, soit en modifiant le régime fiscal auquel l'entreprise est soumise, soit en faisant jouer les lois antitrust. En tout cas, le bras de fer entre Trump et Amazon redouble d'intensité depuis hier et depuis la publication par le site internet Axios, spécialisé dans le traitement de la vie politique américaine, d'un article qui affirme que Trump est obsédé par le pouvoir grandissant de la firme de Seattle et qu'il veut le limiter. Immédiatement, vous l'avez dit, la valeur de l'action Amazon a dégringolé et le groupe a déjà perdu presque 60 milliards de dollars en un peu plus de 24 heures.
Et par ailleurs, Grégory, il faut peut-être souligner que Jeff Bezos, PDG d'Amazon, est également le patron du Washington Post que Donald Trump n'apprécie pas franchement.
Oui, propriétaire du journal depuis 2013 et le Poste est l'une des cibles favorites du président Trump, producteur à ses yeux de fake news. Alors un porte-parole de la Maison Blanche nous a fait savoir tout à l'heure que les critiques du président n'avaient rien de personnel, ni à l'égard d'Amazon, ni à l'égard de Jeff Bezos, mais incontestablement, l'homme le plus riche du monde, Bezos, et l'homme le plus puissant du monde, Trump, ne s'entendent pas. En 2015, alors que Donald Trump était en campagne pour la primaire républicaine, Jeff Bezos avait proposé dans un tweet censé être humoristique de l'envoyer dans l'espace grâce à sa fusée Blue Origin.
Grégory Phillips, en direct de Washington. Le dépouillement du scrutin présidentiel est en cours en Égypte, mais on sait déjà que le président Abdel Fattah el-Sissi sera reconduit dans ses fonctions. Selon les estimations de la presse d'État, il est réélu avec plus de 90% des voix et le taux de participation tourne autour des 40%. C'était justement la participation qui était scrutée par tous les observateurs et si elle avait été forte, elle aurait renforcé la légitimité du chef de l'État. Un constat donc, François Umfer Katadji, Sissi n'a aujourd'hui plus le même soutien populaire incontestable que celui qu'il avait il y a 4 ans.
Le grand vainqueur de cette pseudo-élection présidentielle, c'est l'abstention. Environ 40 millions d'Égyptiens ont décidé de ne pas se déplacer dans les bureaux de vote. Et pourtant, les autorités, en l'absence de compétition, avaient fait de la participation un enjeu majeur. Car le seul objectif de cette élection, sans suspense, était de légitimer le pouvoir du président Sissi, de faire une démonstration de force au niveau national comme international, à tel point que les citoyens égyptiens ont été fortement incités à se rendre aux urnes, intimidés également par les patrons dans les usines, par les directeurs d'administration, par les présentateurs à la télé, ou bien encore des hommes sur des camions sonorisés dans les rues. À quelques heures de la clôture, les chaînes de télévision annonçaient même une amende de 500 livres, 25 euros, soit la moitié du salaire minimum, pour ceux qui ne glisseraient pas un bulletin dans l'urne. Malgré cela, selon les premières estimations, moins de 40% des Égyptiens se sont déplacés, et surtout 8% des bulletins sont nuls. On peut penser que des gens qui ont été forcés à voter ont choisi de faire annuler leur vote. Sans compétition, aucun débat d'idées n'a émergé de cette campagne. Le président Sissi, qui se rappelle de l'assassinat de Sadat en 1981, ne s'est jamais montré en public ni n'a tenu de meeting. Il s'est contenté d'une apparition à la télévision, mise en scène par une jeune réalisatrice égyptienne. En bras de chemise, la voix suave, il est revenu sur ses réalisations pendant 5 ans à la tête du pays et se pose comme le père protecteur de la nation en danger. Cependant, les Égyptiens savent parfaitement que la Constitution prévoit 2 mandats maximum. Sissi va-t-il chercher à changer cette Constitution pour rester au pouvoir ? Tout le monde y pense. Le peuple égyptien, étouffé par la répression, laissera-t-il faire ? Ce sera désormais la grande question qui va se poser pendant le second mandat d'Abdel Fattah el-Sissi.
François Humfer Kadadji au Caire. Après l'hommage national rendu hier au colonel Arnaud Beltrame, les 4 victimes du djihadiste de l'Aude ont été inhumées aujourd'hui. À Trèbes, où avait eu lieu la prise d'otages, une cérémonie était organisée ce matin en présence du chef du gouvernement, Édouard Philippe, et des ministres de l'Intérieur, Gérard Collomb, et de la Justice, Nicole Belloubet. Le récit de cette matinée d'hommage avec Yann Gallic.
Les cercueils d'Hervé Sosna, Christian Medves et Jean Mazière ont été déposés au milieu de la place des Arènes, face aux étendards et aux drapeaux français. Des centaines de personnes se sont rassemblées ici pour assister à cette cérémonie solennelle et républicaine en présence du Premier ministre. Mais c'est le maire de Ville-d'Hubert, le petit village de Jean Mazière, qui a prononcé le premier éloge funèbre, un vibrant hommage à ces hommes injustement assassinés.
Ce dont je suis sûr, monsieur le Premier ministre, c'est que vous allez voir beaucoup de gorges serrées et de larmes couler dans notre petit coin de l'Aude. Ce n'était pas l'heure de partir, pour aucun d'entre eux. On n'oubliera jamais.
Éloge funèbre à Monsieur Medves et Monsieur Sosna par Monsieur Éric Ménassi, maire de Trèbes.
Qui aurait pu croire que nous nous retrouverions un jour à Trèbes pour honorer la mémoire de 4 personnes assassinées sur l'autel du fanatisme le plus insensé. Trèbes restera debout et fier de ses valeurs.
Les familles sont ensuite venues déposer des roses blanches sur chaque cercueil dans un silence déchirant avant d'entonner la Marseillaise a cappella. Après la cérémonie, de nombreux habitants ont rejoint la petite église de Trèbes pour suivre les premières obsèques de la journée, celle d'Hervé Sosna, le client du supermarché abattu par le terroriste.
C'est un recueillement nécessaire et qui a été fait dans la dignité des personnes. On passe prioritairement aux familles qui doivent traverser une souffrance immense, inqualifiable.
Yann Gallic à Trèbes, dans l'Aude. En Isère ce matin, un homme accompagné d'une femme a foncé en voiture sur des militaires à Varsalières et Risset, près de Grenoble. 2 interpellations ont été effectuées quelques heures plus tard. Il ne s'agit manifestement pas d'une attaque terroriste. Le suspect a 25 condamnations à son casier judiciaire. Il a fait de la prison, mais aucune radicalisation n'a été remarquée pendant ces périodes de détention. Le Parlement a adopté définitivement une proposition de loi centriste soutenue par le gouvernement, renforçant l'encadrement des écoles libres hors contrat. Avec cette loi, déclare le ministre de l'Éducation, nous visons des phénomènes de société qui sont dangereux pour notre pays, dangereux pour notre jeunesse. Jean-Michel Blanquer faisant allusion au risque de dérive fondamentaliste. Seuls les insoumis ont voté contre ce texte, estimant qu'il rate son objectif, Anne Fauquemberg.
L'école privée hors contrat ne représente que 0,5% des effectifs, 74 000 élèves en septembre dernier. Mais cet enseignement, en dehors de l'éducation nationale, se développe. La France compte aujourd'hui 1 300 écoles indépendantes contre 800 en 2010. Des établissements qui, à 60% environ, développent des méthodes pédagogiques innovantes, les autres étant des écoles confessionnelles, en grande majorité catholiques ou protestantes. La nouvelle loi harmonise leur déclaration d'ouverture. Mais surtout, les autorités vont bénéficier d'un délai de 3 mois pour s'opposer à leur implantation, comme l'explique l'UDI Michel Zumkeller. Il était le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale.
Avant l'adoption du texte, tout ça était très vague. Il y avait des notions d'hygiène qui étaient très vagues. Là maintenant, il y a risque de trouble à l'ordre public. Ça permet de contrôler quand même tout ce qui s'y passe. Et puis, il y a la notion de l'intérêt de l'enfant. Il faut vérifier que ces gens qui enseignent ont les capacités de le faire et que l'enseignement accordé correspond aux valeurs, c'est-à-dire l'équité entre les enfants, que chaque enfant ait un enseignement de qualité, qu'on ne fait pas de différence entre une fille et un garçon, etc., etc.
La France insoumise a voté contre, opposée par principe aux écoles hors contrat, mais aussi pour interpeller le ministre de l'Éducation nationale, ancien recteur de Créteil, sur les moyens dans l'école publique. Alexis Corbière est député en Seine-Saint-Denis.
Nous proposons donc de lutter contre le développement des établissements privés hors contrat en redonnant d'abord les moyens à l'école publique d'attirer les familles et de reconquérir les parents qui font le choix, parfois malgré eux, d'inscrire leurs enfants dans le privé.
Jean-Michel Blanquer était présent lors des débats. Le texte respecte selon lui l'équilibre entre la nécessité de contrôler ces écoles hors contrat et la liberté d'enseigner, sujet sensible qui date de la Deuxième République. On a eu un beau débat, s'est félicité le rapporteur Michel Zumkeller. Débat qui a aussi posé la question des méthodes d'enseignement au sein de l'éducation nationale. De réfléchir un peu à la marge, on a peut-être enclenché autre chose, a-t-il conclu.
La nouvelle loi s'appliquera dès la rentrée prochaine. Puisque c'est la journée de mobilisation nationale pour favoriser l'insertion professionnelle de la jeunesse, nous nous sommes intéressés à l'initiative du lycée Théodore Monod à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. Il accueille des élèves de quartiers défavorisés, en difficulté depuis le collège, qui sèchent parfois les cours. Pour remotiver les élèves de première bac pro métier de la mode et les amener jusqu'au bac, leurs professeurs ont organisé un voyage inédit, une semaine au Japon, financé en quasi-totalité par des fonds privés. Pour y participer, les élèves devaient être assidus en classe. Sonia Bourran les a accompagnés dans les rues de Tokyo à la découverte de l'art du kimono et de toute une culture.
Arrivés à Tokyo, ces élèves de bac professionnel ont découvert un autre monde avec les Japonais, comme le dit Talia.
Leur façon de vivre n'est pas du tout comme la nôtre. Ils sont plus respectueux, ils se regardent pas mal comme nous on le fait, ils sont discrets. Je m'applique aux règles parce que je suis obligée, mais c'est compliqué pour moi. Parce que j'ai souvent envie de cracher, souvent envie de jeter mes papiers par terre et tout ça. Alors que là, je dois tout garder dans un sac.
Ça, c'est une habitude qu'il faut garder hein, quand on retourne à Paris. Donc on se déplace avec son petit sac poubelle.
Leur professeur de couture, Fatima Bentaleb, veille. Ce qui marque surtout les élèves, comme Amour, c'est son prénom, c'est l'organisation, la discipline.
Quand on marche, il faut se mettre à gauche. Même par exemple au métro, on doit s'aligner à la queue-leu-leu. Un rang à droite, un rang à gauche. Comme il y a beaucoup de monde et que c'est ordonné, ils arrivent mieux à vivre en collectivité. Alors que chez nous, on est vite énervé, on est vite nerveux, tout le monde se bouscule. Alors qu'ici, les gens, ils sont calmes et respectueux.
Le groupe a arpenté les différents quartiers de la capitale japonaise. Maiwen n'a pas l'habitude.
J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux talons, j'ai mal aux cuisses. J'ai l'impression que j'ai fait du sport. Moi, je sors presque jamais. Je reste tout le temps chez moi, je suis pas habituée à marcher beaucoup.
Pour reprendre des forces, les jeunes filles se sont régalées de sushis. Pas toujours facile à manger pour Lina et Maria.
Avec les baguettes, quand on essaie, à la fin, on y arrive.
Au début, j'avais du mal et là, j'ai toujours du mal avec. Je ne peux pas me débrouiller.
Et puis, elles ont visité des ateliers de fabrication de kimono, tout cela sans se perdre.
J'ai dit, on reste groupés. Vous avez du mal.
Nassera Kasmi, professeure d'histoire-géographie, a dû quand même régulièrement rappeler à l'ordre les adolescentes.
On touche là les fondamentaux qui, moi, en tant qu'enseignante, me posent problème en classe, à savoir les problématiques de savoir-vivre et de savoir-être, du respect de l'autre. Des consignes et ça leur a permis de se remettre en question sur leur pratique à elles.
Et Djereba reconnaît qu'elle et ses camarades ont fait des progrès.
Quand on est ici, c'est plus calme, c'est plus zen. Parce qu'en fait, dans la classe, on va dire, on est un peu gamin, ça, on va pas se cacher. Mais faire un voyage comme ça, ça fait grandir. C'est quand on vit avec les gens qui sont à l'opposé de nous, qui sont pas pareils que nous, et on arrive à vivre pendant une semaine avec, c'est ça qui fait grandir.
Ce voyage est une incroyable ouverture pour ces élèves. C'est l'objectif de Samia Essaba, professeure d'anglais, et à l'origine du projet.
On leur permet de trouver leur place dans la société, d'accéder à des codes de comportement. Puis surtout là, le Japon, c'est une expérience, même pour moi qui suis une adulte. Alors le premier jour, c'était dur. Elles s'oublient, elles parlent fort, elles se comportent comme lorsqu'elles sont dans leur bus. Mais on a fait des miracles. Là, je pense qu'elles vont rentrer, elles ne seront plus les mêmes. Quand elles repartiront en stage, en entreprise, en formation professionnelle, elles ne vont plus avoir la même attitude qu'il y a quelques mois.
Les lycéennes ont ramené des kimonos dans leurs valises. Elles présenteront un défilé à la fin de l'année, en juin.
Reportage à Tokyo signé Sonia Bourran. Les gardes à vue du doyen et d'un professeur de la fac de droit de Montpellier sont prolongées. Les deux hommes ont été mis en cause dans les violences survenues la semaine dernière dans l'établissement. Le parquet a ouvert une enquête en flagrance pour violence en réunion avec armes. Enquête qui a été confiée à la Sûreté publique. Les syndicats de pilotes ont claqué la porte des négociations avec Air France. Demain, 11 syndicats de tous métiers appellent donc à la grève pour obtenir une augmentation générale de 6%. Et ils prévoient un rassemblement devant le siège d'Air France à Roissy. Le groupe prévoit d'assurer 76% des vols. Cet après-midi, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a appelé la direction d'Air France et l'intersyndicale de l'entreprise à la responsabilité, estimant qu'il ne fallait pas casser la dynamique de croissance de l'entreprise. Et puis le procureur de Grenoble le confirme, l'attaque de militaires à Varsalières-Hérissé n'était pas une attaque terroriste, mais une triste et banale affaire de violence de la part d'un individu au passé judiciaire chargé malgré son jeune âge. Une perturbation pluvieuse arrivera demain matin sur la moitié ouest de l'Hexagone. Elle se décalera ensuite vers le nord et vers l'est. Dès la mi-journée, de fortes pluies orageuses tomberont de la vallée du Rhône jusqu'en Franche-Comté. Les températures varieront le matin entre 1 et 12 degrés. Il fera l'après-midi 10 à 17 degrés jusqu'à 20 en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.